Chapitre 23. Sous le regard attentif de Callan, les trois sœurs sondaient les alentours en quête du moindre mouvement. Alors que le soleil sombrait à l'horizon, les contours du paysage devenaient de plus en plus indistincts. Au sud, sous un amas de nuages gris, une frise de lumière vacillait encore, irisant de rouge l'étroite bande de ciel enchâssée entre cet îlot de jour et les premiers héros d'un très lointain orage. Au-dessus de cette plaine, le ciel paraissait si vaste que Callan se sentait plus insignifiante qu'une fourmi. Lorsque quasiment rien ne poussait sur une telle étendue de terre, le sentiment de désolation ajoutait à l'angoisse qu'on éprouvait souvent face à l'immensité de la nature. Il pleuvait déjà par endroits, mais dans une plaine si étendue, ces averses localisées restaient des phénomènes isolés et sans conséquences. En s'arrêtant un an au même endroit, Callan l'aurait parié, un voyageur curieux aurait sûrement attendu en vain qu'une de ces douches express passe au-dessus de lui. Dans un environnement si stérile, la vie paraissait plus fragile et désespérée que jamais. Seules les montagnes au nord et à l'est semblaient assez solides et fortes pour que les nuages consentent à crever régulièrement au-dessus de leurs pics. En conséquence, les arbres et les autres végétaux se confinaient sur leurs versants, refusant obstinément de s'aventurer dans les plaines. Son cheval montrant des signes d'énervement, Callan tira un peu plus fort sur ses rênes, puis elle lui flatta les naseaux. Ensuite, elle le caressa doucement sous la mâchoire, histoire de lui faire sentir que tout allait bien. Avide de cajolerie, l'animal flanqua de petits coups de tête dans l'épaule de sa cavalière, debout devant lui. Las de contempler le paysage désolé, Callan se tourna vers le cheval et lui accorda une attention plus soutenue. Dans le lointain, derrière la bête, les montagnes s'unissaient pour se transformer en un énorme promontoire. De loin, on eût dit la queue d'une bête géante provisoirement endormie. Callan regrettait d'avoir quitté ces montagnes. Sans doute parce que personne ne pouvait l'y repérer de loin, le contraire des conditions offertes par un terrain plat, la prisonnière des sœurs s'était sentie en sécurité lors de cette partie du voyage. Dans les plaines, elle avait toujours peur d'attirer l'attention d'inconnus. Une appréhension un peu stupide, sachant qu'on ne la voyait pas et qu'elle ne risquait pas de toute façon de tomber entre de pires mains que celles des sœurs de l'obscurité. Sur la crête du promontoire, Callan aurait juré apercevoir des bâtiments. Si ses yeux ne lui jouaient pas des tours, il s'agissait probablement de ruines, car la plupart de ces édifices semblaient ne plus avoir de toit. À vrai dire, il ne paraissait pas avoir davantage de murs, mais seulement des fragments de murailles plus qu'à moitié écroulés. Si c'était bien le cas, ça expliquait les formes étranges des bâtisses. On ne voyait pas âme qui vive aux alentours de ces structures. S'ils avaient jamais existé, les habitants de la cité abandonnée devaient être depuis longtemps retournés à la poussière. Apparemment, les trois sœurs n'appréciaient guère les villes fantômes. Partout où elles passaient, ces femmes faisaient montre d'une méfiance maladive, le fardeau que devaient porter les conspirateurs professionnels, promptes à voir des sombres machinations partout. Mais dans le cas présent, Callan partageait la nervosité de ses gardiennes. Les trois femmes n'avaient pratiquement pas dit un mot de la journée. Le matin, de très mauvaise humeur, Ulyssia avait flanqué un coup de canne sur l'épaule de Callan, pas pour la punir d'un forfait réel ou imaginaire, mais pour la prévenir de ne pas causer de problème durant la journée. Frapper leur prisonnière était pour les trois sœurs un excellent moyen de montrer leur supériorité sur le reste du monde. Aimant se griser de pouvoir, elle ne se privait jamais de maltraiter Callan. Consciente que toute tentative de rébellion, même mineure, aggraverait son sort, la prisonnière, oubliant sa dignité et ses douleurs, s'efforçait de filer doux même face aux injustices les plus flagrantes. En cet instant, elle songeait que continuer dans le noir, en particulier aux abords d'un terrain très accidenté, ne serait sûrement pas une très bonne idée. Dans des conditions si pénibles, un cheval risquait de se casser une jambe, voire de se briser le cou. Pressées d'atteindre Casca, les sœurs avaient refusé de s'arrêter pour la nuit. Quand ces femmes voulaient quelque chose, elles préféraient crever que de s'en passer. Pourtant, il faudrait bien prendre un peu de repos, et finir par dresser le camp dans le noir n'était pas une perspective très réjouissante.
« Il y a quelque chose là-bas, je le sens, »
dit Armina sans cesser de sonder la pénombre.
« Je capte la même chose, » murmura Cécilia. C'est peut-être Tovi,
avança Armina.
Ou un animal sauvage,
grogna Ulyssia qui ne semblait pas d'humeur à tirer des plans sur la comète.
Avançons.
Elle jeta un bref coup d'œil à Kalan.
Suis-nous. À vos ordres, ma sœur,
souffla la prisonnière. Elle rendit aux trois sœurs les rênes de leurs chevaux. Nettement plus âgée que les trois autres voyageuses, Cécilia se hissa en selle en grognant sous l'effort.
Si je me souviens bien des cartes que j'ai consultées dans les catacombes, nous ne devrions plus être si loin que ça. J'ai également vu ces anciennes cartes,
révéla Ulyssia une fois qu'elle fut en selle.
Des pièces rares, soit dit en passant. Cet endroit y est appelé Profond Néant. Si c'est bien ça, ce qu'on aperçoit au sommet du promontoire doit être la cité de Casca. Donc Tovi nous y attend,
lança Armina avec l'équivalent pour une sœur d'un profond soulagement.
Oui,
confirma Cécilia.
Et lorsque nous l'aurons retrouvée, elle aura quelques explications à nous fournir. C'est du Tovi tout craché, cette histoire,
s'écria Armina.
Comme elle se croit la meilleure, obéir aux ordres est souvent le cadet de ses soucis. Vraiment, j'ai rarement rencontré une personne si têtue.
La pitié qui se moque de la charité, pensa Kalan, bien placé pour savoir qu'Armina n'avait rien à envier à sa collègue.
On verra si elle s'entêtera quand je serai en train de l'étrangler,
s'emporta Cécilia, tout aussi peu encline à l'indulgence que ses compagnes. Inquiète, Armina se tourna vers Ulyssia.
Tu ne crois pas qu'elle nous a trahis, n'est-ce pas?
Tovi?
Non, ce n'est pas son genre. Elle peut être agaçante à l'occasion, mais elle lutte pour la même cause que nous. De plus, elle sait très bien qu'il faut détenir les trois boîtes pour que ça serve à quelque chose. Elle connaît l'enjeu et elle sait comment doit être jouée la partie. Bientôt, les trois boîtes seront réunies et c'est tout ce qui compte. Casca n'est plus très loin de toute façon, donc à rattraper Tovi un peu plus tôt n'aurait pas changé grand-chose.
Mais pourquoi nous a-t-elle faussé compagnie comme ça?
Demanda Cécilia. Ulyssia eut un geste insouciant. Contrairement à ses compagnes, elle semblait bien plus détendue maintenant que la destination était en vue.
Qui sait? Elle a peut-être repéré des forces de l'ordre et décidé qu'il serait plus prudent de quitter la région. Elle a réfléchi, c'est tout. Elle savait que nous devions venir ici et elle a un peu anticipé les choses. Un excès de prudence ne fait jamais de mal. Au bout du compte, elle a choisi la destination prévue depuis le début. Quel mauvais tour pourrait-elle nous réserver?
C'est assez bien vu,
admit Cécilia, visiblement déçue de ne plus avoir une traîtresse sur laquelle défouler sa colère. Les trois sœurs eurent besoin d'une heure de plus pour s'aviser que continuer à chevaucher dans des conditions si difficiles était un moyen très sûr de finir par se briser le cou. Selon Kalan, ce surcroît d'effort ne les avait pas beaucoup rapprochés du promontoire. En plaine, on se croyait toujours plus près de sa destination, une illusion d'optique due à l'écrasement des distances. Un voyage de quelques heures, en apparence, pouvait aisément se transformer en une chevauchée de plusieurs jours. Si pressées qu'elles soient d'arriver à Casca, les sœurs, de plus en plus fatiguées, finirent par se résigner à camper. Ulyssia mit pied à terre et tendit les rênes de sa monture à Kalan.
« Dresse le camp et plus vite que ça. Nous mourrons de faim. »«
Oui, ma sœur. »
Kalan commença par attacher les chevaux afin qu'ils ne faussent pas compagnie à leur cavalière, puis elle déchargea les bêtes de bas en se limitant au strict nécessaire. Totalement épuisée, elle ne pourrait probablement pas dormir avant des heures. Dresser le camp, préparer le repas et bouchonner les chevaux, voilà qui ne se ferait sûrement pas en un clin d'œil. Ulyssia prit Armina par le bras et la tira vers elle.
En attendant le repas, tu vas aller inspecter les environs. Je veux savoir si c'est vraiment une bête sauvage.
Armina acquiesça, s'éloigna et s'enfonça dans les ténèbres.
« Tu crois vraiment que c'est une bête sauvage ?»
demanda Cécilia.
« Si c'est le cas, elle nous suit à une distance qui ne varie pas et c'est un peu surprenant. Si quelqu'un nous épie, Armina s'en apercevra. »
Les deux sœurs exigeant des sièges confortables, Kalan installa les couvertures en rond, puis elle sortit une casserole d'un sac afin de se mettre à cuisiner.
« Pas de feu ce soir !»
lui lança Ulyssia.
Que voulez-vous manger, ma sœur? Il reste du bannock et de la viande fumée. Nous avons aussi des pignons, si je me souviens bien. Il faudra faire avec ça. Un feu nous signalerait à des lieues à la ronde dans cette plaine. Prends seulement une petite lanterne. »
Même si elle n'imaginait pas ce que pouvaient craindre les sœurs, Callan obéit au doigt et à l'œil. Elle alla chercher la lanterne et la donna à Cécilia, qui l'alluma d'un claquement de doigts, puis la posa sur le sol devant elle. Avec si peu de lumière, finir de dresser le camp ne serait pas un jeu d'enfant, mais ça valait quand même mieux que rien. Au cours du voyage, il était arrivé deux ou trois fois que des patrouilles les surprennent. Les sœurs ne s'étaient jamais beaucoup émues de ces rencontres désagréables. À chaque occasion, elles avaient éliminé les soldats sans difficulté. Lors de ces escarmouches, elles prenaient toujours garde à ne pas laisser de survivants, afin que le gros de la force ne soit au courant de rien. Dans le cas contraire, les soldats risquaient de monter des expéditions punitives mieux préparées au combat. Là non plus, cette éventualité ne semblait pas terroriser Ulyssia et ses compagnes. Simplement, elles étaient pressées et n'entendaient pas être retardées à tout bout de champ. Rejoindre Tovi était une obsession, parce qu'elle tenait à réunir les boîtes d'Orden. Un détail leur échappait. C'étaient les boîtes du seigneur Rall, et elle les avait volées dans son palais. Au cours du voyage, les quatre cavalières avaient été ralenties par un important détachement de soudards de l'ordre. Les bouchers de Jagang ayant dressé leur camp dans la plaine, Ulyssia et ses compagnes avaient attendu le milieu de la nuit pour se faufiler parmi les dormeurs. Dès qu'une sentinelle les apercevait, un sort silencieux et fatal la foudroyait sur place. Depuis le début de la captivité de Callan, les sœurs n'avaient jamais eu le moindre scrupule à éliminer tous ceux qui se dressaient sur leur chemin. Dans le camp cette nuit-là, elles firent un massacre sans presque y penser, comme si elles avaient simplement écrasé des fourmis sur leur passage. Depuis, les quatre femmes n'avaient pas aperçu l'ombre d'un militaire. L'armée de l'ordre était désormais loin derrière elles, et il ne serait pas nécessaire de s'en soucier avant pas mal de temps. Mais d'autres dangers existaient, jouant avec les nerfs des trois sœurs. Cela dit, être excitées comme des souris ne les empêchait pas de rester aussi dangereuses que des vipères. Longtemps après le retour d'Armina, qui n'avait rien trouvé, alors que les sœurs étaient repues, Callan, le ventre toujours vide, n'en avait pas encore terminé avec ses corvées. Elle bouchonnait les chevaux quand elle crut entendre de très légers bruits de pas sur le sol en terre aussi dure que la roche à force d'être sèche. Des soldats, peut-être. Tendue, Callan s'immobilisa, son étrille figée en plein vol. Jetant un coup d'œil derrière elle, elle sursauta en découvrant une mince gamine aux courts cheveux noirs, debout, à la lisière du cercle lumineux de la lanterne. La lune étant occultée par de gros nuages noirs, l'illumination du camp était des plus réduites. Malgré tout, Callan vit que les yeux clairs de l'inconnue étaient rivés sur elle.
Cet enfant voyait la prisonnière.
« S'il vous plaît, »
commença la fille. Callan se plaqua un index sur les lèvres pour lui intimer le silence. Comme l'aubergiste, l'inconnue voyait Callan, et elle n'oubliait pas son existence en une fraction de seconde. C'était stupéfiant et très inquiétant, car la pauvre petite risquait de subir le même sort que le patron de l'auberge.
« S'il vous plaît, »
répéta la gamine, beaucoup plus bas,
« puis-je avoir quelque chose à manger? Je meurs de faim. »
Callan jeta un bref coup d'œil aux trois sœurs. Occupées à converser, elles ne s'intéressaient pas le moins du monde aux chevaux et à leurs esclaves. Plongeant la main dans une sacoche de sel posée à ses pieds, Callan en tira une lanière de viande séchée. Un index de nouveau plaqué sur les lèvres, elle tendit ce petit trésor à la petite inconnue, qui la remercia d'un simple signe de tête, puis s'empara de la viande et entreprit de la dévorer.
« Pars maintenant !»
souffla Callan.
La gamine leva les yeux et les écarquilla, cessant net de mâcher.
« Eh bien, eh bien !»
fit une voix menaçante dans le dos de Callan.
« On dirait que notre bête sauvage est venue nous détrousser. »
« Ma sœur, elle meurt de faim, »
plaida Callan.
« Et elle n'a rien volé. Je lui ai donné ma ration de ce soir, pas la vôtre. »
Comme des charognards, Armina et Cécilia rejoignirent leur chef. À la lueur de la lanterne que tenait la plus vieille des trois, les sœurs étudièrent attentivement la proie qu'elles se préparaient à dépecer.
« Elle aurait attendu que nous dormions, »
dit Ulyssia,
« pour mieux nous égorger. »«
Je ne voulais pas vous attaquer, »
se défendit la gamine, ses yeux aux reflets cuivrés brillant de terreur.
« J'avais faim et j'espérais mendier un peu de nourriture, c'est tout. Je n'ai rien volé. »
Avec quelques années de plus, l'inconnu rappelait à Callan la fillette de l'auberge. La pauvre petite qu'elle avait juré de protéger juste avant qu'Oulicia l'exécute sauvagement. Chaque soir, avant qu'elle s'endorme, le souvenir de cet enfant venait hanter Callan. Même si la petite victime ne s'était pas souvenue plus d'une seconde de sa promesse, ne pas avoir tenu parole lui laissait au fond du cœur une plaie qui ne se refermerait jamais. Jurer à une personne qu'elle vivrait et ne pas tenir parole, pouvait-il y avoir pire forfaiture? Plus âgée et surtout plus mûre, cette petite-là mesurait la gravité de la menace, contrairement à celle de l'auberge. Une certaine sagesse brillait dans ses yeux. Cela dit, elle restait immergée dans l'enfance, et la plénitude de l'âge adulte pour elle restait une lointaine perspective. Sans crier gare, Armina frappa l'inconnu, l'envoyant bouler sur le sol. Déchaînée, la sœur bondit sur sa victime. Se protégeant la tête avec les bras, la gamine implora qu'on la pardonne d'avoir osé demander à manger. Entre deux volées de coups, Armina eut le temps de fouiller sa proie. Quand elle se calma un peu, elle brandit triomphalement un couteau que Callan n'avait jamais vu. Puis elle le jeta aux pieds d'Oulicia qui lui accorda un bref coup d'œil.
Un drôle de jouet pour une fillette. Comme tu le disais, Oulicia, elle nous aurait probablement égorgés dans notre sommeil.
Non, je ne vous voulais pas de mal,
cria la petite inconnue alors qu'Oulicia levait sa terrible canne en chaîne. Devinant ce qui allait suivre, Callan se jeta sur la fillette, lui faisant un bouclier de son corps. La canne s'abattit sur son épaule, à l'endroit où elle avait déjà très mal. En entendant le bruit sourd du bois qui percutait l'os, la gamine frissonna. Callan, elle, cria de douleur. Serrant les dents, elle poussa sa protégée le plus loin possible des sœurs, afin qu'elle ne puisse pas lui faire de mal.
« Fichez-lui la paix ! »
cria-t-elle.
« Ce n'est qu'une enfant, elle a faim et elle ne peut pas vous nuire !»
Complètement paniquée, la fillette enroula un bras autour du cou de Callan, comme si elle se raccrochait à une racine saillante au bord d'une falaise. Si elle avait pu carboniser les trois sœurs sur pied, Callan ne s'en serait pas privé. N'étant pas en mesure de le faire, elle se concentra sur son rôle de protectrice. Si elle défiait trop ouvertement les sœurs, elle l'isolerait pour la punir et la petite se retrouverait sans défense. Oulicia abattit une nouvelle fois sa canne sur l'épaule de Callan. Furieuse, elle recommença encore et encore.
« Lâche la gamine »
cria-t-elle tout en frappant. La pauvre petite haletait de terreur.
« Tout va bien !»
parvint à lui souffler Callan.
« Je te protégerai, c'est juré !»
L'enfant inconnu murmura un merci craintif à l'oreille de sa bienfaitrice. Sincèrement résolue à ne pas abandonner cette innocente-là, Callan voulait également préserver le lien qu'elle venait de se trouver avec le monde. La gamine la voyait, l'entendait et se souvenait d'elle. Bref, elle avait conscience de son existence. Grâce à cette rencontre inattendue, Callan n'était plus une ombre que le regard des gens traversait. Frappant de plus en plus fort, Oulicia chargeait maintenant avec la rage aveugle d'un taureau fou furieux. Consciente que sa vie ne tenait plus qu'à un fil, Callan refusait de trahir l'enfant qui se serrait contre elle. Ces derniers temps, les sœurs avaient torturé bien trop d'innocents.
« De quel droit ?»
commença Oulicia.
« Si vous voulez tuer quelqu'un, fracassez-moi le crâne, mais laissez cet enfant, elle n'est pas une menace pour vous. »
Oulicia parut séduite par cette proposition puisque ses coups redoublèrent de violence. Résignée à vivre ses dernières minutes, Callan résistait de son mieux car il n'était pas question qu'elle s'écarte pour laisser la petite inconnue sans protection. Réfugiée derrière Callan, dont la carrure dépassait largement la sienne, la fillette criait de terreur. Pas à cause de ce que les sœurs menaçaient de lui faire, mais face à ce qu'elles infligeaient déjà à sa protectrice. La canne percuta une première fois la tête de Callan, émettant un étrange bruit sourd. À demi sonnée, du sang coulant sur ses yeux, la prisonnière ne renonça toujours pas à sa mission sacrée. Soudain, la canne se brisa en deux sur son dos. Le plus gros morceau vola dans les airs et Oulicia, folle de rage, regarda sans y croire le pathétique moignon qu'elle brandissait encore. Cette fois, c'était sûr. La dernière heure de Callan avait sonné. Mais bizarrement, cette idée la laissait de marbre. Prisonnière à jamais d'une bande de sadiques, elle n'avait pas d'avenir. Si elle ne pouvait pas lutter pour défendre des innocents, la vie n'avait plus de sens pour elle.
« Ulyssia !»
souffla Armina en saisissant au vol le poignet de sa complice.
« Cette gamine a vu Callan, exactement comme l'homme à l'auberge !»
Ulyssia se pétrifia.
« Nous devons en apprendre plus sur ce phénomène !»
ajouta Armina. Cecilia avança soudain, se campant au-dessus de Callan et baissa sur elle des yeux pleins de mépris.
« Comment oses-tu défier une sœur ? »
tonna-t-elle. À l'évidence, elle n'avait pas entendu les propos d'Armina.
« Pour te punir, nous allons écorcher vif cet enfant et tu devras assister à sa lente agonie. »«
Une sœur ? »
répéta la fillette.
« Vous êtes toutes les trois des sœurs ?»
Un silence de mort tomba soudain sur la sinistre scène. Chaque inspiration lui arrachant un cri de douleur, Callan avait l'impression que sa tête tournait comme une toupie. Des larmes arrachées par la douleur roulant sur ses joues, elle tremblait comme une feuille, mais rien n'y ferait, elle n'abandonnerait pas la fillette. Ulyssia jeta au loin son ridicule moignon de canne.
« Nous sommes des sœurs, oui. En quoi ça t'intéresse ?
Tovi m'a dit de guetter votre arrivée.
Mais c'est bizarre, vous n'avez pas tellement l'air d'être ses sœurs. »
Le temps parut suspendre son vol.
« Tovi ?»
répéta Ulyssia sur ses gardes.
« Oui, une femme âgée. Elle est bien plus grosse que vous et on ne croirait pas que vous êtes de la même famille. Elle m'a dit d'aller guetter l'arrivée de ses trois sœurs et d'une quatrième femme.
Et pourquoi lui as-tu obéi ?»
La petite écarta de ses yeux une mèche de cheveux noirs.
« Elle a capturé mon grand-père. Si je ne fais pas ce qu'elle m'ordonne, elle le tuera. »
Ulyssia eut un sourire de vipère, si une vipère avait pu sourire.
« Je te crois, tu as bien rencontré Tovi. Où est-elle ? »
Callan s'écartant un peu pour la laisser libre de ses mouvements, la fillette désigna le promontoire.
« Là-haut, dans une salle remplie de livres que je lui ai montrés. Elle m'a dit de vous y conduire. »
Ulyssia échangea un bref regard avec ses compagnes.
Elle a peut-être déjà localisé le site central de Casca.
Armina soupira de soulagement, puis elle flanqua une grande claque dans le dos de Cecilia, qui lui rendit son geste amical.
« C'est encore loin ? »
demanda Ulyssia, toujours pragmatique.
« 2 jours de marche, peut-être 3 ?»
Ulyssia sonda les ténèbres un moment.
« 2 ou 3 jours. Comment t'appelles-tu, ma fille ? » ?»«
Gillian. »
Ulyssia décocha dans les côtes de Callan un coup de pied qui la força à s'écarter de la gamine.
« Parfait, Gillian. Tu peux prendre la couverture de Callan. Elle n'en aura pas besoin car elle restera debout toute la nuit. Une punition clémente, non ?»
Gillian posa une main sur le bras de la prisonnière.
« Sans elle,
dit-elle,
vous m'auriez tué avant de savoir que j'étais votre guide. Ne soyez pas trop sévère parce qu'elle vous a bien servi. »
Ulyssia réfléchit quelques instants.
« Tu sais quoi, Gillian ? Puisque tu as si bien plaidé la cause d'une esclave désobéissante, c'est toi qui vérifieras qu'elle reste bien debout cette nuit. Si elle ne respecte pas cette consigne, je lui flanquerai une raclée demain matin qui la laissera infirme jusqu'à la fin de ses jours. Si tu veux son salut, surveille-la bien. Que dis-tu du marché que je te propose ? »
Gillian ne répondit pas. Décidément, elle comprenait vite. Ulyssia saisit Callan par les cheveux et la força à se relever.
« Si elle s'assied ou se couche, elle le paiera cher, et ce sera ta faute, Gillian, c'est bien compris ?»
La gamine acquiesça.
« Très bien !»
Ulyssia se tourna vers ses compagnes.
« Allez, il est temps de dormir !»
Dès qu'elles furent seules, Callan tapota gentiment la tête de la gamine assise à ses pieds.
« Ravi de te connaître, Gillian !»
murmura-t-elle afin que les trois harpies ne l'entendent pas. Gillian sourit et répondit sur le même ton.
« Merci de m'avoir protégée. Ta promesse était sincère. »
Elle prit la main de Callan et la pressa contre sa joue.
« Tu es la personne la plus courageuse que j'ai rencontrée depuis Richard. »
« Richard ?»«
Richard Rall. Il est venu, il a sauvé mon grand-père. Mais depuis... »
Gillian se tut et baissa les yeux. Comprenant que la gamine s'inquiétait pour son grand-père, Callan fit un signe de tête en direction des chevaux.
« Va ouvrir cette sacoche, ma chérie,
et prends quelque chose à manger. »
Kalan aurait donné n'importe quoi pour s'étendre, mais Ulyssia n'était pas du genre à lancer de vaines menaces.
« Ensuite, tu voudras bien rester près de moi cette nuit. Je crois que j'aurai besoin d'une amie. »
Gillian eut un adorable sourire d'enfant.
Demain matin, un autre ami viendra se joindre à nous.
La petite désigna le ciel.
Mon corbeau s'appelle Loki. Il nous amusera avec ses trucs, tu verras.
Kalan n'avait jamais envisagé d'avoir un corbeau pour ami, mais il fallait faire flèche de tout bois.
Je ne te laisserai pas cette nuit, c'est promis.
Malgré la douleur et l'angoisse, le cœur de la prisonnière débordait de joie.
Gillian était vivante. Cette première victoire sur les sœurs avait quelque chose de grisant.